9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi matin. Ravi de vous retrouver pour faire le tour de la question en ces fêtes de fin d'année avec une star à la une ce matin, Michael Jackson. Si vous n'êtes pas sensible à son univers, eh bien vous le deviendrez peut-être en écoutant nos invités. Car on va parler de l'héritage artistique du roi de la pop. Le Grand Palais à Paris consacre une grande exposition sur ce sujet. Son empreinte dans l'art contemporain, chez les peintres, les plasticiens, les vidéastes, d'Andy Warhol à Jeff Koons, Philippe Manœuvre nous en parle notamment. Et puis à 10h, êtes-vous fan de polar? Alors si c'est le cas, cette émission est faite pour vous, les amis. Le polar pour les nuls sort chez First et permet de faire le tour de ce genre, de la littérature au cinéma, des séries noires aux séries télé. On est ensemble avec vous jusqu'à 11h avec Julie sur Europe 1. Bienvenue.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Bonjour Philippe Manœuvre.
Bonjour.
Bienvenue chez vous parce que vous avez animé de belles émissions avec Émilie Moisoyer ici.
Oui,
hein.
C'est vrai. On avait fait Salut les rockers tout et un été. Alors là, Billie Jean, ça me rappelle moi le 14 avril 1983. C'est la date où on a diffusé Billie Jean aux enfants du rock. Pour la première fois, les gens ont vu le clip du garçon qui allumait les trottoirs en marchant. Et c'est devenu une star en une nuit. Hein. Ça a été la folie dès le lendemain. Jusque-là, les gens n'avaient pas fait le rapport. Il y avait eu les Jackson 5. Bon, on avait entendu ABC avant Tubac en 71. Après, il y avait eu un peu de funk solo, mais c'était réservé au palace, aux gens qui allaient danser quand il y avait eu Off the Wall. Et là, avec cet album Thriller qui est lancé par le clip de Billie Jean, ça devient une star planétaire. Il n'y a pas qu'en France, hein, c'est partout. C'est en Angleterre, au Japon. Vraiment, la planète va découvrir un musicien, un danseur, un artiste mystérieux également. Tout est là, quoi, une espèce de paquet complet.
Tout est là, avec cette exposition qui arrive, elle aussi planétaire. Elle nous vient de Londres, elle partira en Allemagne, elle partira en Finlande. Elle s'installe à partir de vendredi au Grand Palais jusqu'au mois de février. Vous citiez, Philippe, l'album Off the Wall. Cette exposition s'appelle On the Wall, sur le mur. Fabrice Bousteau, c'est bon que vous soyez avec nous, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, parce qu'on se dit qu'est-ce que Fabrice vient faire ici pour parler de Michael Jackson. D'abord, vous êtes peut-être fan, woman, je ne sais pas, bonjour.
Bonjour. J'ai évidemment dansé sur Michael Jackson et j'ai adoré certains de ses albums, évidemment. Je suis un fou de son, et l'invention sonore de Michael Jackson n'est plus à répéter, c'est extraordinaire.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas simplement de ça dont on va parler. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne sont pas du tout sensibles à la musique de Michael Jackson, mais qui sont très sensibles à l'art contemporain, et en l'occurrence c'est pour cela aussi que vous êtes ici, car cette exposition traduit l'héritage et l'influence dans l'art contemporain de l'œuvre de Michael Jackson. Vous avez même consacré un hors-série à cette exposition dans votre magazine, c'est dire.
Exactement. En fait, cette exposition, elle parle de trois axes dans les relations avec l'art, avec Michael Jackson. La première, c'est sans doute que Michael Jackson est une sorte d'artiste total. C'est lui-même un artiste musicien, mais aussi un artiste contemporain au sens qu'il réalise des œuvres d'art. La deuxième chose, c'est ce que montre cette exposition, c'est les goûts en art de Michael Jackson. Il a fait appel à énormément d'artistes pour décorer Netherland. Il a collectionné des œuvres. Alors, on en parlera tout à l'heure. Il a une relation très bizarre avec les artistes, contrairement par exemple à quelqu'un comme Madonna ou comme David Bowie. Madonna était très proche de très grands artistes contemporains comme Basquiat. David Bowie était un immense collectionneur d'art contemporain avec des collections muséales.
Et pourquoi vous dites bizarre pour Michael Jackson?
Parce que bizarre, il a fait intervenir beaucoup d'artistes un peu ésotériques, totalement inconnus, pour le mettre en scène lui dans des situations un peu cosmiques où il est représenté en dieu. C'est totalement un peu fou, avec un sens de la culture populaire. Alors à la fois, il a eu des relations assez étroites avec deux grandes icônes de l'art, Andy Warhol et Keith Haring, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Bien sûr.
Et puis le troisième axe, c'est le phénomène Michael Jackson comme inspiration de très nombreux artistes contemporains du monde entier. pour des causes différentes, par exemple des artistes qui sont mobilisés sur la cause des Noirs, mais également des artistes qui ont été fascinés par son univers, son côté transgenre avant tout le monde. Voilà, c'est fascinant et passionnant.
Incroyable,
Michael Jackson.
Speedrun, Michael Jackson. Et on fait le tour de cette question, vous allez l'entendre, chers amis, passionnante jusqu'à 11h, avec évidemment la musique de Michael Jackson qui va nous guider, l'expertise de Philippe Manœuvre et la sensibilité de nos invités, donc auxquels j'associe Fabrice Bousteau qui vient de s'exprimer, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine. Dites-nous ce qu'il a laissé chez vous, dans vos veines aussi. Michael Jackson, le standard est ouvert et les réseaux sociaux vous attendent, Julie.
3921 et le hashtag Europe 1. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Michael Jackson à l'honneur dans cette émission jusqu'à 11h à l'occasion de cette exposition au Grand Palais. Et on y verra des œuvres d'art inspirées par Michael Jackson essentiellement.
Avec notamment les portraits pop art d'Andy Warhol à partir de 1982, les inspirations autour de Jeff Koons, de David LaChapelle, tous les portraits faits sur commande de Michael Jackson. On
Matthew
en parle avec
Rolston.
Mathieu. Alors oui, dites
Mathieu Rolston, c'est le grand photographe de Los Angeles. Il faut imaginer, il doit mesurer 1m60, il est tout petit. Personnage très précieux qui Jackson avait décidé que Matthew ferait ses calendriers. Et donc il nous racontait des anecdotes incroyables, notamment tout ce que faisait Matthew devait être ensuite on donnait les films au fur et à mesure à l'assistant de Michael Jackson.
Oui.
Et un jour Matthew s'est dit, je vais garder un rouleau de film pour moi, pour que c'est trop bête, quoi. Je lui donne tout au fur et à mesure. Jackson emportait les rouleaux de film, les développait, choisissait lui-même,
d'accord,
etc. Le truc échappait à l'artiste, il a gardé un rouleau. Et à la fin de la séance, tout va bien, Michael s'en va, etc. Et là, le garde du corps revient et dit « Matthew, j'ai compté, c'est bizarre, il nous manque un rouleau ». Donc c'était extrêmement
incroyable.
Surveillé.
Ouais.
Même quand il se délivre, quand il se donnait dans ses séances de pause, il y avait quand même des assistants à lui, il était très méfiant. Enfin, c'était l'homme à la cervelle d'or. Tout le monde voulait un peu de Jackson. Et c'est Matthew Rolston qui a quand même fait la fameuse photo habillée en roi, complètement princière, où Michael s'imagine en roi de la pop. Parce que il épouse la fille d'Elvis Presley, qui était the king of rock'n'roll. Et lui, il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, je suis le roi de la pop. Donc, il oblige. Moi, à l'époque, je fais une émission pour Canal+, sur un concert de Jackson. En direct, il commence sa tournée en Allemagne, c'est la deuxième grosse tournée, c'est dans les années 90. Et juste avant de prendre l'antenne, les gens viennent, les avocats nous donner un papier. Toute mention de Michael Jackson doit être suivie de The King of Pop. Si on ne le dit pas,
incroyable.
Il coupe l'antenne.
Incroyable.
Oh là, il y a quand même un mythe
et un culte narcissique extraordinaire, Fabrice Bousteau.
Ce qui est fou, c'est qu'il est le deuxième roi de la pop. Parce que la pop, c'est quoi? C'est le pop art inventé par Andy Warhol.
Mais oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rencontrent, Andy Warhol et Michael Jackson, pour une interview du magazine qu'Andy Warhol possède, qui interview. Et l'interview, en fait, ils se rencontrent au Club Régine à New York. Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Et Warhol a une commande par le Time de faire un portrait. Oui. Et c'est là où il fait les portraits il fait quatre portraits de Michael Jackson avec ses couleurs, ce qu'on connaît bien de Warhol. Et Warhol dit, je le cite, il dit « J'ai fini la couverture avec Michael Jackson, je ne l'aimais pas, mais les garçons de mon équipe, oui. Alors les gens de Time sont passés le voir, ils étaient une quarantaine, ils ont adoré. » Et ce qui est marrant dans cette relation, c'est que Warhol, dans son journal, parle assez souvent, il croise au Club 78 Michael Jackson, il en parle assez souvent. Et que fait Warhol? C'est que Warhol avait ce qu'on appelle les capsules de Warhol, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles il collectionnait des objets. Il a acheté énormément d'objets en douce de Michael Jackson comme une sorte de culte. Donc il était assez fasciné par Warhol, par Jackson.
Oui.
Et Jackson, dans un clip célèbre qui s'appelle Scream, qui est un clip, pour que les auditeurs l'imaginent, qui ressemble à un film un peu de science-fiction, très inspiré de 2001 ou d'Odyssée de l'espace de Kubrick. Il y a un moment donné, on voit défiler les œuvres d'art, entre guillemets, icônes de Michael Jackson. Et qu'aimait Michael Jackson, en fait, un goût assez classique. Tout ce qui avait les artistes totales, Léonard de Vinci, Poussin, tous les artistes un peu symboliques, mais on voit aussi des pop américains, on voit Warhol, et on voit également un tableau de Jackson Pollock, c'est l'inventeur du dripping, artiste important. Donc on voit que cette relation quand même était importante entre Warhol et Michael Jackson. Les deux se voyaient comme les deux rois de la pop.
Très intéressant, et pour venir, parce que l'exposition consacre justement une quarantaine d'artistes qui ont été influencés par Jackson dans ce monde artistique, parce qu'il a, cet héritage aussi très, très présent dans l'artistique. Philippe, vous parliez du côté souverain, ça illustre aussi son rapport au temps, qui était un rapport très particulier, donc un rapport visionnaire, mais un homme aussi qui ne voulait pas grandir, d'où son ranch de Neverland, avec cette volonté de marquer ses portraits, de les inscrire aussi dans l'art, de manière
Alors,
plus durable.
Lui, il se fait peindre par David Nordahl, qui est le grand peintre, je dirais, c'est le Poussin américain actuel,
ouais,
c'est un truc.
Ouais.
C'est vraiment le peintre qui met en valeur Jackson en chevalier du Moyen-Âge, descendant du roi Arthur,
ouais,
portant Excalibur. Il fait faire un portrait
légende,
de lui.
En fait.
Voilà, il fait faire un portrait de lui marchant dans la campagne américaine avec tous les enfants qui le suivent. C'est un peu comme un personnage de Disney, quoi. Il crée au fur et à mesure. Il faut voir que Michael Jackson était quand même un personnage très excentrique, que toute sa deuxième tournée américaine dans les années 90, il l'a faite en logeant au château de Disney, dans l'hôtel Disney, où il avait réservé un étage dans la suite impériale, de toutes les suites, un étage lui était réservé.
Oui.
Et tous les soirs, après les concerts, que ce soit à Bâle, à Berlin, il avait son jet privé qu'il ramenait au château de Disney. Et souvent, la nuit, en grand excentrique, vers 2h du matin, il demandait qu'on lui rouvre le parc. Parce qu'il avait l'adrénaline du concert, il ne voulait pas dormir. Et avec ses danseurs, ils étaient 7 ou 8, une vingtaine maximum. Ils avaient tout le parc pour eux. Disney avait un système où on rappelait les gens. Tous les employés de Disney étaient réveillés au milieu de la nuit. On leur disait « Michael Jackson veut le parc et on ne peut pas rouvrir simplement.
Veut.
On pouvait pas rouvrir qu'un manège. Il faut rouvrir tout le parc ou rien. » Donc tout le monde fonçait en une demi-heure pour se mettre en place. Voilà, ça lui coûtait 250 000 francs de l'époque à chaque fois.
Ouais.
Et c'était le prince Jackson, le roi Jackson.
La semaine dernière, on a fait une émission sur Disney. C'était l'un des plus grands connaisseurs du monde de Walt Disney, hein, et de l'expertise Disney, Michael Jackson. C'est encore un autre sujet, mais c'est vous dire justement l'artiste total qu'il est, pour reprendre une expression Fabrice Bousteau. On va parler justement de cette réalisation par Jackson d'œuvres d'art, notamment dans ses clips, avec de la musique pour illustrer. Puis je vais vous mettre sur le hashtag Europe 1 tout de suite quelques illustrations de ses œuvres que vous pouvez trouver. Vous trouvez également dans le hors-série de magazine Beaux-Arts consacré à Jackson. A tout de suite, chers amis.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Est avec nous, journaliste musique, auteur de Rock, votre autobiographie qui est parue chez HarperCollins il y a quelques semaines, Philippe. Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, vous nous éclairez tous les deux sur cette exposition qui arrive à grands pas au Grand Palais, c'est vendredi, pour le grand public, et l'inspiration chez une quarantaine d'artistes contemporains de l'œuvre de Michael Jackson, vidéaste, plasticien, sculpteur, peintre, évidemment, ils sont présents. Et vous nous disiez, Fabrice Bousteau, comment et combien Michael Jackson réalisait des œuvres d'art. Thriller en étude, Philippe.
Les clips, voilà, le clip, allez, il faut savoir, le clip, c'est quelque chose qu'on voyait arriver très lentement. Il y avait eu des tentatives, il y avait des groupes qui avaient fait, après le Scopitone, les Scopitone de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, fait par Lelouch en 62.
Ouais.
Bon, ça c'était bien, mais dans les années 80, je me souviens de Pierre Lescure me faisant rentrer dans son bureau aux Enfants du Rock avec Antoine Decaune et Dionnet et disant regardez, et il y avait un clip qui avait été fait par les Jacksons, c'est-à-dire la famille Jacksons. Où on les voyait comme des géants pacifiques au-dessus de Los Angeles répandre une poudre d'or sur les enfants. Ça avait coûté 360 000 dollars de budget et c'était assez ridicule. Et donc, on voyait, et tout le monde tâtonnait. Van Allen avait fait un clip pour Pretty Woman. C'était potache. L'humour ne passait pas du tout. Beaucoup de gens essayaient de tâtonner.
Oui.
Et puis, soudain, il y a l'effet Billie Jean. En 1983, Michael Jackson envoie cette vidéo réalisée par Steve Barron, qui est un réalisateur de pub anglais, très, très droit dans ses bottes, qui a des idées géniales, et notamment qui se dit, puisque j'ai un super danseur, il décide qu'il va allumer les trottoirs en marchant et en faisant une chorégraphie sur le thème de Billie Jean. Le problème, c'est que le matin du tournage, les déclics ne marchent pas. Et qu'il y a certains trottoirs qui s'allument, d'autres pas. Et toute la chorégraphie que Jackson avait prévue est ruinée. Il faut tourner dans la journée. Et Jackson va réussir à inventer une chorégraphie sur le moment pour utiliser le matériel défaillant et pas perdre la journée de tournage. Donc Steve Barron m'a toujours dit, ce type est un génie de la danse. Je n'ai jamais vu ça. C'était incroyable. Alors Michael Jackson déteste Billie Jean à cause de souvenirs. Enfin, lui, c'est le professionnel américain. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Anglais ? Ça n'a pas marché. Pour lui, c'est une très mauvaise expérience. Et donc, il va prendre Bob Giraldi, qui est un réalisateur de pub américain, pour faire Beat It. Deux mois après, il a non seulement envoyé Billie Jean en... Nous, on le passe en mars, en avril, donc le 14 avril 83, aux Enfants du Rock. Et un mois après, il y a Beat It qui arrive, réalisé par Bob Giraldi. Ou alors là, il change de costume. Il est habillé en cuir rouge. Il a les côtes de maille un peu comme un chevalier du Moyen-Âge qui viendrait chez les rockers. Il y a toujours ce côté liaison avec les Templiers, le Moyen-Âge, l'époque où les gens avaient des haubères, des côtes de maille, des
parures. Il est obsédé par tout ce qui est mystique.
Voilà. Moi, je vais voir la tournée Victory avec ses frères à ce moment-là aux États-Unis. Il y a le Victory Tour. Et ça commence, il y a l'épée du roi Arthur. Tous les frères viennent essayer de soulever l'épée. Évidemment, à la fin, c'est Michael qui la sort du truc en criant « On to victory !» Et là, ils commencent à jouer « Wannabe starting something » comme des fous furieux. C'est un spectacle démentiel. Voilà, il y a une espèce
Sur les clips, il faut aussi dire qu'il a fait appel aux meilleurs. Parce que, par exemple, Bad est tourné par Martin Scorsese, le grand réalisateur américain.
Donc, alors que Jackson, et qu'il y a un problème aussi.
C'est pas des clips, c'est presque des courts-métrages. Parce que Thriller qu'on entendait tout à l'heure, 14 minutes.
14 minutes par John Landis, qui est le copain de Spielberg, qui est un réalisateur de grands films d'action américains. Après, donc, il y a Scorsese. Scénario. Alors là, il y a des problèmes. Parce que la première rencontre avec Scorsese... Michael arrive avec son chimpanzé Bubbles et Scorsese est allergique aux singes, ne supporte pas. Donc il y a tout un problème de relation, mais ils ont une envie de travailler ensemble. Ils se regardent tous les deux, ils se flairent. Et Jackson va se prêter à la réalisation, à tout ce que Scorsese lui demande. Et ils vont faire ce clip de Bad incroyable dans le métro new-yorkais. Avec tout... Lui, à chaque fois, il change de costume. Alors là, il a le costume à boucle, un peu inspiré du punk, une espèce de truc post-punk.
Et c'est tellement, ça fascine tellement les artistes d'ailleurs aussi, ces clips, que par exemple, il y a un clip célèbre aussi qui s'appelle Earth Song, où en fait, on oublie aussi cette dimension très écologique, très impliquée de Michael Jackson, où dans ce clip, on voit la destruction du monde, des montagnes, de la mer, des animaux. Il était obsédé aussi, Michael Jackson, et d'ailleurs sur plusieurs pochettes, on voit des représentations d'animaux. Et ce clip marque tellement les artistes contemporains qu'un artiste célèbre aujourd'hui, qui est dans tous les grands musées du monde, qui a une quarantaine d'années, Horowitz, a repris ce clip et l'a passé à l'envers pour à la fois faire un hommage au moonwalk, donc à la manière de danser de Michael Jackson, mais aussi parce que quand on le regarde à l'envers, vous savez, il y a toute une sorte de mythe sur le fait de passer du son à l'envers, ou regarder l'envers, on trouverait des codes bizarres. Eh bien, on trouve des codes bizarres. Quand on regarde ce clip à l'envers, il est très étonnant. J'invite les auditeurs à aller voir l'exposition parce qu'il y a vraiment des œuvres absolument bluffantes.
On en reparlera.
Il projette son image avec ses clips, mais il faut aussi voir que c'est un danseur exceptionnel.
Voilà,
il y a ce côté
on va
aussi
y revenir sur ce côté danseur et Martine nous appelle Damien dans un instant, elle veut réagir là-dessus avec cette silhouette mythique, vraiment ce pas du moonwalk, ce pas de danse aussi si célèbre, le côté épure esthète de Michael Jackson qui a évidemment influencé aussi l'art dans sa rigueur, dans la précision du trait, pour reprendre une métaphore de peinture. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, on fait le tour d'une question passionnante, un univers que vous ne connaissez peut-être pas, celui de l'inspiration artistique de Michael Jackson.
Who's bad?
Michael Jackson.
Mais vous le faites bien.
In the place.
Wendy Jackson est avec vous jusqu'à 11h.
Avec Philippe Manœuvre, avec Fabrice Bousteau, avec pour le Bad World Tour, Michael Jackson qui porte cette fameuse veste en cuir noir. Philippe, durant sa tournée, record, 4 millions de fans auront suivi entre 87 et 88. Ce perfecto a jugé il y a quelques jours aux enchères 300 000 dollars. D'ailleurs, puisqu'on parle de vêtements, Philippe et Fabrice, il n'y aura pas de vêtements dans cette exposition au Grand Palais, Palais Grand Mythique,
etc. C'est pas du tout. Voilà, il faut savoir, on ne va pas voir les costumes de scène, on ne va pas voir les boots, les moonwalk, les sockets de cachemire blanche. Là. Non, 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 ça, c'est pas
mais,
là.
Mais on ne les voit pas, mais elles sont évoquées dans les nombreuses œuvres d'art qui sont présentées.
Voilà.
On voit comment Jackson a influencé les artistes.
Je prends un exemple. Il avait commandé un portrait à un artiste absolument inconnu par le milieu de l'art, entre guillemets, qui s'appelle Paul Bédard, qui est une œuvre assez étonnante, puisqu'on voit Michael Jackson au centre avec son blouson rouge célèbre, son gant, parce que le gant est devenu totalement mythique.
Et blanc, il y a le gant de Mickey et le gant de Michael.
Voilà, et ses lunettes, troisième élément fondateur de son mythe, c'est les lunettes de soleil légèrement évasées vers le bas. Et en fait, il a demandé à un artiste de représenter Albert Einstein, de représenter la Joconde de Vinci, George Washington, Lincoln. Sur le même tableau, portant chacun un gant, le gant de Michael Jackson, les mêmes lunettes, et voilà. Donc
l'univers,
c'est
Jackson,
cette mégalo totale. Donc on retrouve
inspirante oui, pour beaucoup d'artistes notamment.
C'est obligatoire qu'un artiste soit mégalomane, qui croit en lui. Sinon, personne va y croire.
Alors comment on infuse justement cette croyance, cette légende, notamment chez les musiciens, auteurs, compositeurs. Je suis ravie d'accueillir en ligne Claude MC Solar qui est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, vous qui écoutez attentivement cette émission, manifestement, avec Philippe Manœuvre et Fabrice Bousteau.
C'est passionnant.
Ah, c'est sympa d'appeler. Vous êtes un artiste qui a été inspiré aussi par ce mythe Jackson et notamment par tout ce côté esthète dont on vient de parler, vous qui aimez l'esthétisme des mots, Claude.
Oui, effectivement. Moi, quand il débarque, on a une identification, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui danse, qui nous apporte de l'entertainment. Et je me rappelle que quand c'était la période de Michael Jackson, la grande, dans notre école, on voyait des gens marcher à l'envers, c'est-à-dire tenter de faire du moonwalk. Quelques jours plus tard, on voyait des chaussettes apparentes. Des gens venaient avec un gant. Il est clair qu'il nous a...
Ça faisait pas la même sensation d'un cours d'école, évidemment.
Oui, il nous a totalement marqué. Mais c'est artistiquement que... Voilà, je ne savais pas. C'est avec du recul que je me rends compte qu'il allait voir les plus grands. Parce que tout ce qu'on voyait, c'est-à-dire les clips, ça a été une révolution totalement doctrinale, quoi.
Oui.
Il a fait, je crois que lui-même c'était une œuvre d'art. Hein. La transformation physique, l'envie d'avoir une fossette, de ressembler à... Voilà, il me fait penser à un artiste, vous savez, ces artistes qui se transforment, qui font les expériences sur eux-mêmes.
Oui. Orlan, vous pensez forcément à Orlan, donc cet artiste française mondialement célèbre qui a fait appel à un chirurgien esthétique pour... critiquer le principe de chirurgie esthétique, elle s'est fait mettre deux trucs horribles sur les tempes, donc elle ressemble un peu à un monstre. Et donc effectivement, il y a eu beaucoup d'écrits disant, en fait, Michael Jackson a commencé ses opérations à peu près en même temps qu'Orlan. Et donc, il a voulu faire de son corps lui-même une forme d'œuvre d'art.
Ah, c'est intéressant, j'ai jamais analysé les choses comme ça, Claude et Fabrice.
Mais lui-même est une œuvre d'art, hein. C'est-à-dire qu'il allait chercher partout. Par exemple, les danses de combat assez viriles qu'il a fait, ce sont des choses qu'il allait chercher dans les années 60, vous savez, dans les mouvements de révolte, et il les a mises dans un côté super entertainment pour finalement terminer avec la grande imagerie soviétique.
Oui, le AK et West Side Story, quoi.
Ouais, ouais. Et puis il y a plein de choses comme ça, des détails, s'intéresser au mime Marcel Marceau, c'est visiblement, en réalité, je crois que ça devait être un esthète de l'art. J'ai impatience d'aller voir cette expo.
Ah bah écoutez Claude, c'est assez adorable. Philippe, vous vouliez dire un petit mot à Claude qui gentiment réagit.
Très content de réentendre Claude en live après toutes ces années. Comment ça va? Mais non, mais l'influence de Jackson, elle est colossale sur la pop d'aujourd'hui. L'album Bad, c'est devenu le prototype de tout ce que tout le monde veut faire. Pas Thriller, parce que Thriller c'est un truc à part. Mais Bad, c'est ça que les gens copient. Si vous écoutez l'album de Bruno Mars, l'album de Pharrell Williams, l'album de Christine and the Queen, c'est des enfants de Jackson, ils le revendiquent.
Quand on regarde la fabrication de cet album, c'est d'une modernité incroyable.
Et
à
oui.
savoir que c'est l'utilisation des premiers samplers avec Herbie Hancock, et ils sont là en train d'expérimenter, de faire un son qui est totalement... totalement moderne.
C'est le grand leg de Quincy Jones. C'est Quincy Jones qui est au fourneau pour la dernière fois et avec cet album Bad, je vous dis, il a donné, enfin, depuis que Bad est sorti en 1987, on continue à piller cet album. C'est la bonne formule pour faire un disque qui plaît aux gens.
Le livre de recettes.
Ouais,
merci.
Absolument.
Merci Claude MC Solar d'avoir réagi à cette influence Jackson depuis la cour d'école à vos qualités d'artiste reconnue aujourd'hui, Julie, avec le disque.
Puisqu'on évoque des albums, c'est l'album d'MC Solar qu'on adore et qui s'appelle Géopoétique. Salut.
Salut. À bientôt.
Salut Claude.
Et à tout de suite.
Salut.
Pour refaire encore quelques instants le tour de cette question sur l'inspiration artistique de Michael Jackson qui s'invite au Grand Palais à partir de vendredi. Vendredi, 10 ans après sa disparition. A tout de suite avec Martine qui veut réagir depuis Amiens.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
On est tous en train de,
ah oui,
de chanter en même temps.
Studio.
C'est parfait, ça.
Ah, c'est bon, ça.
C'est tellement bon que Beat It, c'est dans l'album Thriller qui a totalement fasciné les artistes. Il y a deux œuvres à l'exposition qui sont absolument géniales.
Au Grand Palais, on rappelle, à partir de vendredi.
Au Grand Palais, il y en a une qui rend hommage à Freeze. Qu'est-ce que c'est Freeze? Vous savez, c'est le moment donné où Michael Jackson étant en équilibre, juste sur la pointe des pieds.
Oui, comme une danseuse d'opéra. Hein,
comme une danseuse d'opéra. On a l'impression qu'il va tomber. Et ça défie les lois de l'équilibre.
Incroyable.
Et il y a un artiste qui a pris juste les deux mocassins de Michael Jackson, qui les a attachés avec des fils. Et au-dessus de ces fils, il y a des ballons de couleur qui sont gonflés à l'hélium. Et donc, on
une
a ces mocassins.
C'est magnifique, hein, Dapo Junior, Bocaï Yadom, que je ne connaissais pas.
Extraordinaire. Et l'autre œuvre, mais qui va fasciner tout le monde, qui est absolument extraordinaire, c'est l'œuvre d'une artiste américaine, Candice Bryce, qui a demandé, qui a sélectionné par les réseaux sociaux, par de multiples moyens, 12 fans de Michael Jackson dans le monde entier.
Oui.
Et elle a demandé à chacun de ses fans de chanter l'intégralité de l'album Thriller. Et en fait, on se retrouve sur une énorme vidéo, comme une sorte de polyptyque du Moyen-Âge, où en fait, il y a ces 12 fans qui chantent en simultané Thriller. C'est fascinant, étonnant pour les oreilles et fascinant visuellement.
Ils chantent bien ?
Certains chantent très bien et ils reprennent aussi les mimiques de Michael Jackson. C'est absolument... On a des frissons. Alors... qui nous parcourt quand on regarde
cette
vidéo.
C'est Fabrice Rousteau qui s'exprime, directeur de la rédaction des Beaux-Arts Magazine. Si vous nous rejoignez, on parle de Michael Jackson au Grand Palais. Philippe Manœuvre est
avec nous. Il faut quand même dire un mot de Thriller, parce que c'est quand même l'album Il est sorti donc en novembre 83. Il a été vraiment découvert par les Français. Il sort en octobre 82. Il est découvert par les Français en 83, en mars, quand on passe ses vidéos aux Enfants du Rock. Puis après, Thriller va être passé par Michel Drucker dans un Champs-Élysées spécial Jackson à minuit. Ils passeront Thriller et l'album décolle et il décolle dans tous les pays. Et très vite, il se vend à 23 millions d'exemplaires, ce qui est considéré comme un record. Aujourd'hui, il est à plus de 50, mais ce n'est plus l'album le plus vendu au monde. Il a été dépassé par deux disques, le Best of des Eagles, qui finalement, lentement, sûrement, et l'album Back in Black d'AC/DC, qui est aussi monté au-dessus, qui a dépassé Thriller.
Vous nous disiez pendant la pause, Philippe, que ce n'est pas étonnamment Michael Jackson, le chanteur qui a vendu le plus de disques au monde.
Voilà, pendant toutes les années 80, quand on regarde ce qui s'est passé, Jackson a sorti trois albums qui se sont vendus d'une façon colossale, mais pendant ce temps-là, Prince en sortait neuf. Et quand on fait l'addition, les neuf albums ont vendu plus que les trois.
Mais il n'y a pas les Beatles et Elvis dans votre classement des meilleurs.
Bien sûr, mais là, les Beatles, ils n'apparaissent pas. Les Beatles, ils ont battu tellement de records. Il y a un 45 tours des Beatles qui s'était vendu à 14 millions d'exemplaires en Angleterre. Donc si vous voulez,
on parle d'un milliard de disques vendus pour Jackson. Martine est avec nous depuis Amiens. Alors moi, j'adore votre histoire, Martine, parce que je lis quelques éléments. Bonjour, madame.
Bonjour.
Fan absolu, et votre famille est Jackson, mania.
Oui, en fait, ce sont surtout mes deux petits-fils, parce que moi, j'adorais évidemment. Mon fils aussi. Et alors, j'ai été très étonnée parce que mes deux petits-fils de 6 et 4 ans sont arrivés à la maison en me disant « Il faut absolument que tu nous mettes sur l'ordinateur des vidéos de Michael Jackson. » Je me dis « Mais comment ils connaissent ça ?» Il n'y a pas la télé chez eux et ils n'ont pas accès à ça. Alors, je ne sais absolument pas où ils l'ont vu, bref.
Oui.
Donc nous avons gardé, et alors là ils sont fascinés, ils adorent Bad, Billie Jean et Beat It, ce sont les trois titres qu'ils réclament à chaque fois.
Qu'est-ce qu'ils aiment chez Jackson, ces enfants de 6 et 4 ans, vos petits-enfants, Martine ?
La danse, la danse. Ils sont avec des yeux comme des soucoupes, ils dansent des trucs, et après ils ne dansent pas pendant que Michael Jackson le fait, et après ils essaient de reproduire, et c'est là que c'est très drôle, que évidemment ils n'y arrivent pas. Donc ils essaient surtout les canapés, les fauteuils, et ils me disent mais il y a un truc, il y a sûrement un truc, il devait avoir des aimants dans ses chaussures.
Oui, pour le moonwalk et pour les pointes dont parlait tout à l'heure Fabrice Gusteau.
Alors ils sont fascinés parce que leur grande sœur fait de la danse classique et elle est très douée, elle a eu plusieurs prix, donc évidemment ils savent un peu comment ça fonctionne, mais ils essaient désespérément, ils n'y arrivent pas. Et je trouve ça drôle que des petits de 6 et 4 ans, Michael Jackson, ça fait pas partie du tout de leur quotidien, mais c'est pas du tout ce qu'ils voient et entendent chez eux, ça c'est certain, c'est pas du tout ça. Et ils sont vraiment fascinés.
Ils sont captivés. Martine, Philippe Manœuvre veut vous répondre à ce propos, parce que ça c'est vraiment intéressant, c'est pas un artiste de leur génération, mais il infuse partout, il est présent,
il est présent. Et quand on parle, quand on demande aux gens quel est l'artiste disparu qu'ils voudraient voir, bien peu de gens vont citer Sinatra ou Hendrix aujourd'hui, ils vont dire Michael Jackson. Pour moi, mon fils à 6 ans, il est fasciné par Thriller.
Jackson qui est partout, même chez les tout, tout petits. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment Michael Jackson influence toujours les plus grands artistes, de l'art contemporain à la musique? On en parle aujourd'hui à l'occasion de cette exposition Michael Jackson qui ouvre vendredi au Grand Palais.
Avec des peintres, avec des vidéastes, avec des sculpteurs, avec des plasticiens. Vous nous avez donné déjà envie avec quelques œuvres présentées au Grand Palais. Fabrice Gusteau, vous qui publiez un hors-série à l'occasion de Beaux-Arts Magazine qui est magnifique. J'ai mis quelques photos sur le hashtag Europe 1, vous verrez, c'est très beau. Philippe Manœuvre, auteur de Rock, votre autobiographie chez HarperCollins, c'est avec nous, journaliste musical. Et messieurs, on a fait une petite bataille sur la page Facebook d'Europe 1 pour savoir quelle était votre chanson préférée. Alors on vous en a proposé deux. Michael Frison, qui supervise tout ça, est avec nous en régie et il nous donne le résultat de cette petite bataille entre Thriller et Bad. Eh bien, à 77%, chers amis, vous votez Thriller. Il y a ce souffle ce style qu'il a apporté à la musique et à l'art. MC Solar nous en parlait tout à l'heure et on s'intéresse à ses créations et à son empreinte durable. Vous nous avez raconté ses relations particulières avec Andy Warhol notamment, relations bizarres, vous disiez.
Moi, je dirais
tout
avec son, sa
et
grande
Philippe
influence,
Manœuvre,
c'est oui. Disney, c'est
alors,
Walt Disney.
Même, voilà. Avec son ranch de Neverland.
Ce qui est qu'est surtout, voilà, on n'a pas parlé,
Gens, non, mais il faut dire, tous les gens du rock détestent Disney. Pour eux, c'est pas ce qu'il faut
non,
faire.
Non, mais on surnommait Bambi quand
on
même.
Cherche, ouais, on n'est pas là pour Bambi, on est venu tuer Bambi dans le rock. Et ben Michael Jackson, il dit attendez. Et lui, il voit des qualités là-dedans et il va essayer de devenir un entertainer disneyen, c'est-à-dire pour tous les publics.
Et c'est
avec
vrai
une
que,
volonté,
et c'est vrai, et c'est vrai
une
qu'il y a l'œuvre
mondiale. Il doit toucher la planète.
C'est
oui, et vous avez d'autant plus raison sur la volonté mondiale. C'est que ce qu'on oublie de dire de Michael Jackson, c'est que à 10 ou 15 ans, il a déjà visité le monde entier. Et que donc cette culture monde, elle est essentielle dans l'œuvre de Michael Jackson. Et quand il conçoit Neverland, donc en Californie, son parc géant, c'est là l'œuvre totale. Parce qu'il faut imaginer que Neverland, c'est, il choisit la totalité du mobilier. Il prend des mobiliers classiques américains, un peu kitsch. Il fait réaliser des mobiliers inspirés par Disney.
Il Neverland, achète... juste un mot, c'est l'île des enfants perdus. C'est le pays où on, imaginaire de Peter Pan. Hein.
Voilà,
là, on ne grandit pas.
Le pays imaginaire de Peter Pan, où on ne grandit pas et où il vivait. Et qu'il a fait meubler de A à Z. Il a mis des poteries chinoises, des céramiques du Japon.
Ah oui,
donc c'est une sorte de, voilà, de bulle du monde où on ne grandit pas. Et ça, c'est vraiment très très important pour comprendre Michael Jackson. Et c'est ce qu'on voit aussi à l'exposition. Parce que ces références à ce monde entier, à ce monde de l'enfance permanent, à Peter Pan, tous les artistes le reprennent énormément.
Ouais, c'est très et c'est devenu quoi d'ailleurs sa maison là ?
Elle est toujours en vente.
Elle est toujours
plus ou moins en vente. Personne
en vente meublée avec tous ces objets.
Bah, les
ces
objets devaient être vendus. Devait y avoir une grande vente aux enchères. Moi j'ai tout visité, cette espèce de trésor des pirates. J'ai vu les assiettes dans lesquelles ils mangeaient. Enfin,
il a quand même tout. Il a ses enfants qui ne veulent pas garder la maison.
Voilà. Et bon, c'est un peu en vente. C'est pas très. Ouais. Il y a plein de mauvais souvenirs pour lui. Il a pas fini sa villa. Il voulait plus y habiter parce qu'il y a eu la descente de police. Ils ont fouillé tout. La maison,
oui,
pour lui
de...
c'était violé, il avait été violé, il ne voulait plus revenir à Neverland et il a fini sa vie à Los Angeles.
Oui. C'est d'ailleurs étonnant aussi dans l'exposition, il y a certains portraits qui sont faits par des artistes qui n'ont pas été commandés par Michael Jackson, d'un Michael Jackson qui est une sorte d'elfe en désespoir. Notamment, il y a un portrait extraordinaire dans l'exposition de Ketzaring, le très grand artiste américain, où en fait on a le sentiment d'avoir un Ketzaring qui est en train de pleurer, qui est effacé, qui a l'air de se diluer dans la toile, et avec des corps d'hommes qui tombent, d'enfants qui tombent sur lui. C'est vraiment à la fois très très poétique et très touchant.
Et on va se quitter, messieurs, avec une des chansons dont il sera le plus fier. Il le disait lui-même, 1992, Heal the World. Il l'a créé dans la foulée, la Heal the World Foundation, pour aider les enfants vivant dans les zones de conflit. C'était un engagement très fort, puisque nous parlions aussi de l'enfance. Merci Philippe Manœuvre et merci Fabrice Bousteau.
Merci.
Bah, bonne exposition si on vous a donné envie d'y aller. Ça commence vendredi au Grand Palais.
The World, c'était Michael Jackson à qui nous consacrions.
La fée clochette est là, oui, j'ai
l'émission. On va se quitter, les rockers. Allez.
Merci les amis, bravo. À suivre le polar, qui est un genre qui fascine en littérature, à la télé, au cinéma. Pourquoi cette folie du polar, justement ? Eh bien, on partage cette culture ce matin avec nos invités. Ne bougez pas, on revient pour le tour de la question sur Europe 1.